Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Gilles Lipovetsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et sociologue. Jean Serrois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes universitaire, critique culturel, spécialiste de la littérature et du théâtre. Et vous publiez tous les deux Le Nouvel Âge du Kitsch, essai sur la civilisation du trop chez Gallimard. Le kitsch est une notion pas toujours très claire, hein, qu'il convient de préciser. Il faut rappeler que c'est ce qu'était le kitsch au départ, il y a 130 ou 150 ans. C'était l'expression d'une bourgeoisie s'attachant à copier la culture et le cadre de vie de l'aristocratie, en gros. En tout cas des plus hautes sphères de la société, afin de gagner une certaine reconnaissance sociale. On est d'accord ?
Pas aristocratique, c'était un mode de vie bourgeois, voire petit bourgeois.
Oui, mais qui imitait les aristocrates.
Qui voulait imiter, et donc du coup, à travers une accumulation de tentures, de bibelots, de meubles copiés en mauvaise qualité. Et donc, puisque vous posiez le problème de la définition, kitsch au départ... C'est la copie, une copie mécanique de modèles plus ou moins prestigieux. Donc, c'est associé à l'idée de mauvais goût, de mauvaise qualité, de cheap, comme on dit aujourd'hui, de pas cher. Et donc, du coup, forcément dénigré, attaqué par les gens de lettres, les spécialistes de l'art, les artistes. Et parce que c'est un art de vivre prétentieux, ostentatoire, qui veut en jeter aux yeux des autres. Et donc, le kitsch, c'est du tape à l'œil.
Souvent surchargé, hein, les intérieurs kitsch à cette époque.
Exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a ce kitsch historique, qui est le kitsch dont on vient de donner la définition, mais il y a également des tendances, des permanences qui se sont exprimées auparavant. Dans l'histoire de l'art. Et naturellement, on fait un rapprochement avec le baroque, qui était lui aussi un art de la surcharge, qui a été jugé aussi comme un art du mauvais goût, hein, au moment où, justement, on se rappelle la phrase de Poussin qui disait que le Caravage était né pour assassiner la peinture. Donc, on voit bien.
C'est vrai qu'il en faisait trop.
Il en faisait trop. Il en faisait trop.
Alors, pendant les 30 Glorieuses, c'est le triomphe de la consommation de masse, et là, le phénomène s'est généralisé. On a appelé ça le néo-kitsch. Hein.
Oui, parce que tout simplement, le kitsch historique, initial, il s'adresse à une classe spécifique. Tandis qu'avec la société de consommation, de masse, le kitsch devient un kitsch de masse, un autre type de kitsch qui s'adresse à l'ensemble de la population. Et du coup, le tape à l'œil, le mauvais goût, la mauvaise qualité devient... une propriété ou une caractéristique de l'ensemble du monde contemporain. Avec, d'ailleurs, du coup, déjà des caractéristiques nouvelles. Par exemple, dès les années 60, c'est le pop qui intervient.
Il y a un côté ludique hein, dans le néo-kitsch.
C'est ça.
Oui. Qui n'y avait pas forcément dans le kitsch au départ.
Hein. Alors, il y a aussi le fait qu'il y a des évolutions techniques. Hein, l'invention du plastique, par exemple, c'est quelque chose qui va favoriser les décors colorés. Hein, la lumière, toute une série d'éléments qui font que le kitsch va prendre de l'ampleur et avec des moyens qui vont démultiplier en quelque sorte ses propres possibilités.
Alors et j'ajoute aussi, oui. Parce que le kitsch au départ, c'est la reproduction mécanique. C'est le fondement. Avec le néo-kitsch, le kitsch donc de la consommation de masse, la reproduction est supplantée par l'accélération des modèles. C'est un changement permanent. Il n'y a pas de conseil de consommation fixe. Tandis que le kitsch initial, il est solennel, un peu, il veut, il est prétentieux, il est pompier. Tandis que le néo-kitsch, il a ce côté pop. En quelque sorte.
Au fond, on voit bien que ce qui caractérise le kitsch, alors là, que ce soit le kitsch ou le néo-kitsch, et aujourd'hui le nouvel âge du kitsch, c'est la saturation des signes. Hein. Ce sont les logos qui s'affichent sur les vêtements. C'est ça le meilleur exemple. Autrefois, c'était de mauvais goût d'oublier l'étiquette sur le vêtement que l'on venait d'acheter. Aujourd'hui, on paye pour que l'étiquette soit visible. On veut un gros logo sur son pullover ou sur ses chaussures, une marque bien en évidence. Il y a une inversion de la valeur, là aussi.
Alors, en effet, c'est très intéressant, parce qu'au départ, le kitsch s'adresse, c'est un jugement critique qui s'adresse aux classes, disons, pas supérieures. Hein, c'est les classes bourgeoisie moyenne. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, les ultra-riches ont rejoint ce kitsch qui était dénoncé. Et notamment, par ce fait tout à fait nouveau, c'est que le luxe a englobé, il a incorporé la logique du kitsch, du voyant, de l'esbrouf.
Ce qu'on appelle le bling-bling.
Oui, le bling, exactement. Et alors, les exemples, c'est les logos, évidemment, mais il y en a d'autres. On a eu le cas de ces footballeurs qui mangent des steaks recouverts de paillettes d'or. On boit du champagne avec des paillettes d'or. On croit rêver. C'est le comble, évidemment, d'un mauvais goût qui n'est pas esthétique, mais un mauvais goût dans les manières d'être.
Au restaurant du Burj Al Arab, l'un des plus beaux hôtels du monde qui se trouve à Dubaï, j'ai mangé une soupe à l'or. Ouais. Il y avait de l'or dessus.
À dedans. Dubaï, vous nagez dans le kitsch. La ville elle-même, l'architecture elle-même, la reconstitution, la piste de ski en plein désert. On est dans le kitsch absolu. Quoi.
Absolument. C'est l'hyper-kitsch aujourd'hui. Ouais. Le kitsch se diffuse par la télévision, avec la télé-réalité, par les jeux télévisés, les séries. Tout est de l'ordre de la reproduction bon marché, artificielle et ludique.
Pas tout. Ça, c'est une discussion. Quand le Abraham Moles, auquel il faut faire référence, il a été le premier à mettre en avant le concept de néo-kitsch, il dit, bon, c'est tout notre univers est devenu kitsch. Ce n'est pas exactement vrai. La société de consommation a été capable de produire des objets fonctionnels, utilitaires, pas forcément toujours à jeter. Alors, d'un côté, il y a le stylo à jeter, le Kleenex, hein, tout ça, mais d'un autre côté, on a
Il y a encore des belles choses, vous allez me dire.
On a des choses fonctionnelles, etc.
Donc, il faut quand même... tout ce qui est minimaliste est encore...
IKEA, par exemple, IKEA n'est pas kitsch à proprement parler,
non,
si vous voulez.
Voilà. Mais enfin, dans la musique, on le voit, Elvis Presley, avec ses tenues en lamé or, a inventé le bling-bling. Mais Madonna a fait dans l'ultra-kitsch et Lady Gaga, c'est l'hyper-kitsch.
Alors,
Si vous regardez le dernier concours de l'Eurovision, par exemple, là, alors, c'était un déluge.
Mais ça a toujours été kitsch.
Toujours, mais alors là, on est de plus en plus, vu les moyens techniques, on s'aperçoit que là, maintenant, ça déborde de tous les côtés. Quoi.
Quand je dis que le kitsch s'est répandu partout, je pense aux jeux vidéo, à l'art contemporain, Jeff Koons, Paul McCartney, Murakami, Damien Hirst, c'est du kitsch qui vaut des millions, mais c'est du kitsch. Les défilés de mode sont kitsch, les films de super-héros, le festival de Cannes est kitsch, l'industrie du luxe, les influenceurs, les parcs d'attractions, c'est ça que vous appelez au fond la civilisation du trop.
Exactement. C'est-à-dire que là, il y a une sorte d'investissement dans tous les domaines, pratiquement. Et vraiment, on a passé en revue un certain nombre de choses et on s'aperçoit qu'il y a très peu de domaines qui échappent à cette enflure, à ce débordement, à cette hyperbole qui est une sorte de manière de se montrer constante, quel que soit le domaine. Ça va du nain de jardin à la plus petite chose où on a fait un petit développement, par exemple, sur les ronds-points. Les ronds-points, c'est tout le monde s'y retrouve face à des brouettes, face à des fusées, c'est absolument incroyable.
Oui, il y a des sculptures invraisemblables. Enfin, je vous propose de faire une pause et puis on revient en détail sur cette invasion du kitsch.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Gilles Lipovetsky et Jean Serrois qui publient Le Nouvel Âge du Kitsch, essai sur la civilisation du trop. On parlait de Dubaï, mais on aurait pu parler de Shanghai ou de Las Vegas, qui sont tous dans une espèce de démesure ostentatoire et toc. Ça coûte beaucoup d'argent, mais ça n'est pas Versailles.
Non, évidemment. Mais en son temps, peut-être Versailles avait-il aussi cet aspect-là. On s'aperçoit qu'il y avait la volonté d'une sorte de théâtralisation. La politique de Louis XIV, c'était d'en mettre plein les yeux. Quand il faisait venir des diplomates turcs, par exemple, il fallait que véritablement ça les éblouisse. Et alors, il allait. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on trouve certains artistes qui se trouvent très bien à Versailles. Finalement.
Vous parlez de Jeff Koons, Murakami.
Joana Vasconcelos était parfaitement à sa place dans la galerie des Victoires, avec ses valkyries incroyables, qui étaient en phase, en quelque sorte, avec un cadre qui lui-même est quand même pas un cadre du minimalisme.
Hein. Oui, effectivement. Vous trouvez aussi du kitsch chez les trans, hein, surtout quand elles sont barbues, comme Conchita Wurst, qui avait gagné l'Eurovision en 2014. Hein.
Bah, oui, alors ça pose tout le problème qui a été soulevé dès les années 60 avec la question du camp, la culture queer. Là, parce que la drag queen, c'est un kitsch à lui tout seul ou à elle toute seule.
C'est revendiqué comme
tel. Voilà. Alors là aussi, on est dans le néo. Parce que le kitsch, au départ, il est dénoncé. Mais ceux qui l'ont vu, non, mais c'est joli quand même, mon bibelot.
Oui,
regardez,
ils ne disent pas, je suis fier d'être kitsch.
Je suis fier d'être kitsch. Et là, on revendique l'ostentatoire, on revendique l'excès dans le visible, dans l'éclat des maquillages chargés, etc. Et donc, ça crée une nouvelle esthétique, au point qu'il y a maintenant une émission célèbre aux États-Unis qui fait des millions et des millions de
France, en Espagne.
Regardeurs. Oui, oui. C'est un succès formidable, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de beauté dans l'excès.
Mais justement, on pourrait retrouver cette même beauté dans l'excès, bien que tout le monde ne la partage pas, sur Instagram et ailleurs, dans les émissions de télé-réalité, c'est la chirurgie esthétique. Dénoncée par les uns, revendiquée par les autres, et très souvent, là aussi, on dit qu'il y a une civilisation du trop.
Oui, je pense que la chirurgie esthétique, il ne faut pas la dénoncer en bloc, parce qu'elle a son utilité, mais il est vrai qu'au spectacle, d'un certain nombre de résultats, des lèvres
gonflées,
qui donnent on a une allure d'une certaine manière parfois presque quasi monstrueuse, la quête de l'enjolivement, puisque c'était ça aussi la définition du kitsch, hein, chez Breuer ou chez Kundera, se transforme dans son contraire. Et quand on parle du kitsch de cette chirurgie esthétique, c'est que c'est trop. C'est la volonté de plaire se transforme dans son contraire à cause de stéréotypes qui sont portés à l'extrême.
Le côté calipige, par exemple, d'aujourd'hui.
Oui, les fesses surdimensionnées,
les fesses
augmentées.
De plus en plus grosses.
Alors, justement, la politique. Si on parle du kitsch au 19e, on va penser à Sissi, à Vienne, à Louis II de Bavière. Aujourd'hui, l'hyper-kitsch, c'est qui ? C'est Donald Trump, c'est Berlusconi.
Exactement. Qui vient d'ailleurs de la télé-réalité. Hein. Il y a aussi cet aspect-là, qui déjà cultivait l'apparence, le faux, etc., dans ses émissions, et qui construit alors kitsch, la Tower Trump est un monument kitsch, hein, en plein centre de New York, et qui lui-même est une sorte de parade ambulante, avec sa chevelure, avec ses costumes, sa casquette, sa manière de parler, par exemple, hein, tout à fait particulière, qui n'a rien à voir avec la rhétorique des politiciens habituels, qui est une manière de s'adresser à des gens qu'ils comprennent parce qu'ils parlent comme eux.
Et Berlusconi, il y a en plus la chirurgie esthétique.
Exactement. Alors lui, il y a tout, hein, quand on le voit apparaître.
Mais c'est souvent le laboratoire, hein, l'Italie.
Exactement.
Il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a aussi un autre kitsch qui n'a rien à voir avec celui de Donald Trump ou de Silvio Berlusconi, c'est celui de la reine Elisabeth II. Ah, alors elle, on a l'impression qu'elle baignait encore dans un kitsch d'autrefois.
Exactement.
En collectionnant les bibis roses ou jaunes poussins.
Parce que là, il y a une tradition. Là, il y a une tradition qui fait que ce côté sucré, ce protocole, etc., n'apparaît pas ridicule parce qu'il est inscrit dans une histoire, en quelque sorte. Et même si le fait qu'elle s'habillait rose, bleu, vert, ses chapeaux étaient une manière de la faire reconnaître, elle l'a fait sur des recommandations de conseillers à l'image, c'était une manière, dès qu'elle arrivait, on savait que c'était elle, la reine, par ses chapeaux, en quelque sorte. Hein. Donc il y avait naturellement, là derrière, une stratégie politique, mais elle le faisait avec une telle aisance, dans un cadre tellement défini, que finalement, ça paraissait, d'une certaine manière, naturel.
D'ailleurs, elle n'a pas été, elle, critiquée beaucoup sur ce domaine-là.
Ça nous fait rire.
Alors que Trump, oui.
Oui, effectivement. On a bien compris, donc, le kitsch qui était l'apanage d'une classe sociale il y a 150 ans, la bourgeoisie qui voulait ressembler à l'aristocratie. On a vu que ça s'était répandu dans toutes les classes sociales. Même les ultra-riches, aujourd'hui, achètent du kitsch. Et on a vu aussi que ça s'était répandu à peu près dans tous les domaines, même s'il n'y a pas que du kitsch, vous l'avez dit, Gilles Lipovetsky, il y a aussi du minimalisme, il y a aussi autre chose. Mais enfin, le kitsch est à peu près partout. Est-ce que, pour autant, on peut dire aujourd'hui, vive le kitsch ? Est-ce qu'on y a gagné quelque chose ? Au fond, c'est un long processus de démocratisation, tout ça.
Oui, mais nous, c'est notre position. Ouais. On n'a pas une position de
anti-kitsch.
On en monte. On ne peut pas dire plus en parlant d'une situation du trop. Visiblement, on n'est pas conciliant avec ça. Mais en même temps, il faut souligner tout ce que cette civilisation du néo-kitsch a apporté au travers de la consommation. Parce qu'en effet, c'est facile de dénoncer de l'extérieur. mais ça a apporté un bien-être matériel qui est bien sûr pose des problèmes aujourd'hui.
Et parce une esthétisation au fond du monde.
Et une esthétisation également. On a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle L'esthétisation du monde.
C'est pour ça que je dis.
Voilà, donc là, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Et puis d'autre part, même tout le kitsch au sens de Greenberg, la culture de masse, de la culture télévisuelle, elle apporte de la légèreté, de l'évasion, en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait vivre de part en part sans cette légèreté, cette facilité qui fait qu'on critique, mais en même temps, on aime bien regarder? Il y a des millions, voire des milliards de gens aujourd'hui qui voient ça. Alors, ce n'est pas, évidemment, une raison pour ne pas le critiquer, mais quand même, si on n'a pas un regard uniquement moraliste, d'un point de vue anthropologique, ça pose des problèmes.
Oui, ou en tout cas, ça peut faire rêver.
Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que le kitsch donne du plaisir. Ça, c'est un fournisseur de plaisir extraordinaire, y compris pour un grand nombre de gens qui ont une distance avec lui, qui éprouvent vis-à-vis du kitsch cette ironie que je suis malin de me permettre d'être aussi bête, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, au fond, une sorte de supériorité par rapport à ce kitsch dont on prend plaisir à faire parade, sans en être totalement dupe. Il y a toujours un jeu avec le kitsch. Hein. Il y a, je dirais, un kitsch à tous les degrés, au premier degré, au deuxième degré, voire au troisième degré, chacun son kitsch.
Il y a maintenant, d'ailleurs, tout un phénomène qui est étudié. Les gens qui disent qu'ils regardent des séries mélo, rose, tout ce que vous voulez, alors qu'ils les détestent. Donc c'est devenu un phénomène à lui seul qui est devenu un phénomène sociologique.
Généralement, on dit c'est pour voir jusqu'où ils vont.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est la définition même de la civilisation du trop. Je renvoie donc à la lecture de votre livre Le Nouvel Âge du Kitsch. C'est signé Jean Serrois et Gilles Lipovetsky. C'est paru chez Gallimard.